Je vous invite, chers frères et sœurs et amis, à ouvrir dans la parole de Dieu, dans Psaume 33. Psaume 33, versets 1 à 9. Criez votre joie pour le Seigneur, vous les fidèles. Homme droit, le louer est votre privilège. Louez le Seigneur au son de la lyre. Célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau. Faites la plus belle musique en l'acclamant. Ce que le Seigneur dit est sans détour, et tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime l'ordre et le droit. La terre est pleine de la bonté du Seigneur. D'un mot, le Seigneur a créé le ciel. D'un ordre, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue. Il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur. Que tous ses habitants tremblent devant lui. Car il parle, et ce qu'il dit arrive. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je vous invite maintenant à continuer à lire dans la parole de Dieu, mais dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 8. Matthieu 8. Versets 5 à 13. Au moment où Jésus entrait à Capernaum, un capitaine romain s'approcha et lui demanda son aide en ces termes. « Maître, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et souffre terriblement. » Jésus lui dit, « J'y vais et je le guérirai. » Mais le capitaine répondit, « Maître, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais il suffit que tu dises un mot, et mon serviteur sera guéri. Je suis moi-même soumis à mes supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Si je dis à l'un « va », il va. Si je dis à un autre « viens », il vient. Si je dis à mon serviteur, fais ceci, il le fait. Quand Jésus entendit ces mots, il fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, je vous le déclare, c'est la vérité. Je n'ai trouvé une telle foi chez personne en Israël. Je vous l'affirme. Beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et prendront place à table dans le royaume des cieux avec Abraham, Isaac et Jacob. Mais ceux qui étaient destinés au royaume seront jetés dehors, dans le noir. Ils pleureront et grinceront des dents. Puis Jésus dit au capitaine, « Retourne chez toi. Dieu t'accorde ce que tu as demandé avec foi. » Et le serviteur du capitaine fut guéri à ce moment même. Donc ici se termine la lecture de la parole de Dieu. Et avant de commencer à vous partager ce que Dieu a mis dans mon cœur, je voudrais prier. Seigneur, tu permets ce matin que je partage ta parole avec mes frères et mes sœurs. Merci Seigneur pour ce privilège que tu me donnes. Je te demanderai Seigneur de m'aider à la partager pour que ces paroles ne viennent pas de moi mais bien de toi. C'est au nom de Jésus que je te demande cela. Amen. Ce ne sont pas mes lunettes. J'ai deux paires de lunettes, pardon, mais elles sont cassées. Donc j'ai emprunté celle de Sonia. Donc si elles ne me vont pas, Voilà. Mais pour lire, c'est ce qu'il me fallait. Je n'avais pas d'introduction ce matin. Je m'étais un petit peu éloigné à gauche, à droite. Je ne savais pas trop bien quoi dire pour introduire le message. Mais voilà, ce matin, j'ai eu encore le privilège que Jean-François ait parlé, Jean-François ait parlé d'étonnement, d'étonné. Il y a une sœur, dans sa prière, a dit le mot « digne ». On a chanté aussi, et dans une prière, je l'ai entendu aussi, le mot « compassion ». Et tous ces mots font partie du message de ce matin. Donc vous serez certainement d'accord avec moi pour dire que tout au long de son ministère, Jésus provoque l'étonnement. À plusieurs reprises, il est écrit dans les évangiles que beaucoup de gens l'entendaient, étaient étonnés et disaient « Mais d'où lui viennent ces choses ?» Les miracles de Jésus provoquent l'étonnement des gens qui l'entourent. Dans Matthieu 9, au verset 33, excusez-moi, j'ai barré le coup déjà. Donc dans Matthieu 9, verset 33, on peut lire que lorsque le démoniaque muet est guéri par le Sauveur, la foule étonnée dit « Jamais pareille chose ne s'est produite ou vue en Israël ». Jésus étonne également ses disciples, de même que Pilate. En interrogeant Jésus, Pilate est en effet surpris que Jésus ne réponde pas aux fausses accusations. Et le Seigneur va une seconde fois étonner Pilate en mourant si vite. Il faut savoir que la mort par crucifixion pouvait durer plusieurs jours, mais celle de Jésus est surnaturelle. Elle est beaucoup plus rapide. Tout dans la vie du Seigneur est en effet surnaturel. À plusieurs reprises, Jésus étonne aussi les pharisiens. Cependant, Jésus, lui, il est rarement étonné. Des fois, il est étonné, mais c'est négativement. Comme on peut voir dans Marc 6:6, on lit que Jésus est étonné d'une façon négative par l'incrédulité des habitants de Nazareth. Mais dans le texte que j'ai choisi ce matin, on peut lire dans Matthieu 8:10, on apprend que Jésus est étonné en entrant dans Capernaum, étonné par la foi d'un centenier romain. Petite parenthèse, sachez qu'un officier romain commandait une troupe de 100 hommes. Cet officier ne fait pas partie du groupe des disciples qui accompagnent Jésus. Non. Cet officier, c'est un étranger. C'est même un occupant romain. Et pourtant, sa foi étonne le Seigneur. Et c'est vrai que dans la vie, on peut constater que ceux qui ont la foi ne se trouvent pas toujours là où on les attendrait. C'est aussi le cas de Marie-Madeleine. Elle était dans la maison de prostitution et en sortant de là, en rencontrant le Seigneur, la foi va naître dans son cœur. Oui, le Seigneur est étonné. Il est étonné par la foi d'un soldat, d'un étranger. Nous sommes donc dans la ville de Capernaum. C'est une ville importante dans le ministère de Jésus. C'est en quelque sorte son quartier général. Jésus est né, vous le savez, à Bethléem. Il a grandi et travaillé à Nazareth, probablement dans l'atelier de son père jusqu'à l'âge de 30 ans. Toutefois, Capernaum constitue le centre d'activité du ministère de Jésus. Et en la citant, Jésus l'appelle « ma ville » dans Matthieu 9:1. Jésus y a beaucoup travaillé, enseigné, guéri. En voici quelques exemples. La belle-mère de Pierre y a été guérie. Un démoniaque dans la synagogue, ainsi qu'un démoniaque dans la synagogue. de même que le paralytique porté par quatre hommes. Dans cette ville sera guéri le fils de l'officier royal, et le disciple Matthieu y sera appelé par le Seigneur. Et pourtant, malgré tous ces actes, les habitants de Capernaum ne se repentent pas au message du Christ. Jésus constate que cette ville est incrédule, plus mauvaise que Sodome. Ça veut quand même dire quelque chose. Et il porte sur Capernaum un jugement très sévère. Il dit, « Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, ben Sodome subsisterait encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, ce sera moins dur pour le pays de Sodome que pour toi, Capernaum. Le pays de Sodome est devenu Capernaum. Capernaum, la ville où Jésus a pourtant enseigné et fait la plupart de ses miracles. Revenons maintenant à la rencontre de cet homme qui vient vers Jésus. Chez cet homme se dégagent deux grandes qualités. La première grande qualité, c'est que le centenier, ce soldat, est rempli d'attention, de compassion pour son serviteur. C'est un patron qui aime ses ouvriers. Il a de l'estime pour celui qui le sert. Il n'est pas du tout indifférent à la souffrance de cet homme. D'ailleurs, le centenier se déplace lui-même et vient demander à Jésus la guérison de son serviteur. Lui, l'officier romain, un haut gradé, l'occupant, vient en personne plaider la cause de son ouvrier devant Jésus-Christ. Contrairement, n'est-ce pas, aux pharisiens, à qui Jésus fera le reproche de manquer de compassion et de miséricorde. Cet officier fait preuve aussi d'une grande humilité. C'est la deuxième grande qualité, l'humilité. Quand Jésus lui propose de se rendre chez lui, il refuse et dit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Ce centenier romain comprend l'une des plus grandes vérités de l'Évangile. L'homme n'est digne de rien. L'homme ne mérite rien. Aucun homme n'est digne, ne mérite de recevoir Jésus-Christ, de s'approcher de Dieu. Aucun homme n'est digne du pardon de Dieu ni de l'amour du Père. Nous imaginons souvent que si Dieu nous a sauvés, c'est parce qu'il a discerné que nous n'étions pas si mauvais par rapport aux autres. Chers frères et sœurs, il y a danger, car nous ne sommes jamais si loin de Dieu que quand nous raisonnons de cette manière, quand nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres, que nous méritons quelque chose pour nos œuvres. Par contre, la bonne manière de s'approcher de Dieu est de le faire dans l'humilité, car nous ne sommes pas dignes que Dieu s'occupe de nous. Nous ne sommes pas dignes qu'il écoute nos prières, pardonne nos péchés, nous comble de tant de bénédictions. Mais la qualité la plus surprenante chez cet officier est bien sûr sa grande foi, son amour pour le Seigneur. Et Jésus et cet officier ne sont pas restés longtemps seuls, car dans le texte de Luc, versets 7 à 10, On voit que les pharisiens vont se mêler à la conversation en affirmant au Seigneur, « Cet officier mérite que tu lui accordes ce qu'il demande, car il aime notre nation, et d'ailleurs c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Autrement dit, « Fais-lui plaisir, Seigneur, pour ce qu'il a fait. Récompense-le pour le bien qu'il a fait à notre nation. » Et on voit encore une fois que les pharisiens raisonnaient sur le principe des mérites. Ils n'ont rien compris de la grâce de Dieu. En fait, ce centenier ne mérite rien. Cet homme pourtant exceptionnel ne mérite absolument rien. N'avons-nous pas entendu autour de nous, vous savez, c'est un brave type. Il mérite bien le ciel, cet homme. Il a tellement fait, il a tellement aidé les gens. Et puis vraiment, sa vie a été très dure. Il a tellement souffert. Non. Chers frères et sœurs, nous ne méritons rien. Mais tout est grâce auprès de celui qui est la grâce. Tout ce que nous recevons est grâce. Et tout ce que nous méritons, c'est l'enfer. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous sauver de cet enfer, par grâce. Nos mérites, chers frères et sœurs, nos qualités n'y sont pour rien. Et cet officier avait compris ces choses. « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » La foi de cet officier romain est remarquable. Il n'y a rien qui fasse autant plaisir à Dieu que notre foi. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux affirme « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Hébreux 11:6. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais comment Jésus a-t-il découvert et remarqué chez cet officier une foi aussi exceptionnelle? Jésus a découvert que cet homme a compris que Jésus n'a qu'un mot à dire pour que la chose s'accomplisse. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En fait, ce centenier romain a reconnu en Jésus Dieu lui-même. Il a reconnu en Jésus la divinité, puisqu'un seul possède le pouvoir de dire, et la chose arrive, c'est Dieu. Psaume 33, verset 9, enseigne. Il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Genèse 1 nous rapporte que Dieu a créé l'univers par sa parole. Dieu dit et la chose arrive. Genèse 1, verset 3 affirme « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Nous ne pouvons accepter ces choses inexplicables que par la foi. L'Écriture dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Et le centenier sera l'un des premiers à reconnaître l'autorité de Jésus-Christ. Les pharisiens, eux, ils allaient souvent au temple. Ils avaient certainement des grandes connaissances. Et malgré ces connaissances, ils n'ont jamais voulu reconnaître la divinité de Jésus-Christ. On peut très bien aussi, nous, fréquenter régulièrement une église sans avoir reconnu personnellement la divinité de Jésus-Christ. Avez-vous reconnu la divinité de Jésus-Christ? Avez-vous reconnu en lui le Fils de Dieu, Dieu le Fils, la seconde personne de la Trinité. Car il ne suffit pas de reconnaître que Jésus est un grand prophète, un grand sage, un personnage exceptionnel. Non, il est l'unique, le Fils de Dieu, Dieu le Fils. Il est très important, chers frères et sœurs, de reconnaître ce que Jésus est vraiment. Puisque le Seigneur a dit, « Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Jean 8, 24. Le salut passe donc par la reconnaissance de ce que Jésus-Christ est réellement. Au fond de votre cœur, dans votre âme, avez-vous reconnu Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, Dieu le Fils, Créateur des cieux et de la terre, celui qui dit et la celui qui dit et la chose arrive, celui qui ordonne et les choses se déroulent comme il a commandé. Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Avez-vous reconnu qu'il est la lumière du monde? Croyons-nous vraiment ce que Jésus est? Et pour vous aider ce matin à réfléchir, je vais citer 4 versets. Croyez-vous réellement que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. Jean 14, 6. Croyez-vous ce que Jésus dit? Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Jean 8, verset 23. Croyez-vous qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12. Croyez-vous qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité? Colossiens 2, 9. Avec ce dialogue donc entre Jésus et le centenier romain, nous découvrons aussi une autre dimension, un autre enseignement. Ce centenier est un militaire, un habitué de la chaîne d'autorité et de son efficacité. Pour ceux qui ont fait leur service militaire, une des premières leçons enseignées à l'armée concerne les grades. Ainsi aussi, dès le départ, qui est soumis à qui? L'armée fonctionne en effet sur ce grand principe de la chaîne d'autorité. Un simple brigadier qui donne l'ordre aux soldats est respecté. En effet, derrière l'ordre du brigadier, il y a l'ordre du brigadier en chef, puis du sergent en chef, puis de l'adjudant en chef. Et puis ça continue jusqu'aux officiers supérieurs pour se terminer au ministre de la Défense. Par cette chaîne d'autorité, le brigadier qui donne l'ordre aux soldats est investi de l'autorité du gouvernement. Pour faire simple, je dirais que l'ordre qu'a donné le simple brigadier aux soldats est soutenu par l'autorité du gouvernement, c'est-à-dire du ministre de la Défense nationale. Et ce centenier est habitué à la chaîne d'autorité. Et pourtant, il va découvrir et comprendre quelque chose. Il sait, lui, l'officier de l'armée romaine, que derrière sa parole se dresse l'autorité de Rome et de César. Il a donc compris que Jésus étant soumis à l'autorité suprême de son Père, que Jésus est investi du pouvoir. Et il lui suffit de dire un mot pour être appuyé par l'autorité de son Père. Jésus dit la chose arrive. Jésus dit, pardon, la dit et la chose arrive. Cet officier romain sait que quand il dit à l'un de ses soldats va, il va. Et à l'autre, il dit viens, il vient. À son serviteur, il dit fais cela et il fait cela. Pourquoi ? Parce que lui-même, cet officier, est soumis à ses supérieurs. La véritable autorité, chers sœurs et frères, vient de notre soumission à Dieu. En effet, comment avoir la puissance et l'autorité dans nos vies, dans nos activités d'église, dans nos ministères ? En criant, en frappant sur la table, en n'en faisant qu'à notre tête ? Non. Mais en étant soumis à Jésus-Christ. De notre soumission à Dieu vient l'autorité. Mais d'où vient cette puissance de Dieu dans la vie d'un chrétien ? De sa connaissance ? Non. De sa longue expérience ? Non. De ses diplômes ? Non. Cette puissance, elle vient uniquement de la soumission à Jésus-Christ. Plus le chrétien est soumis, plus il est puissant et plus il aura d'autorité. J'ai noté ici que soumission, c'est égal à l'obéissance complète à Dieu. C'est pourquoi quand nous prions, nous devons demander pour que nous soyons soumis et obéissants à Jésus-Christ. La source de la véritable puissance, de la véritable autorité, vient de la soumission à la parole de Dieu. Obéissons-nous à Jésus-Christ ? Sommes-nous soumis à Jésus-Christ ? La vraie qualité du serviteur de Dieu, du chrétien, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Le centenier romain comprend bien ces choses. Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va et il va. Le psalmiste disait, mets en moi cette seule préoccupation, rester soumis à ta volonté. Mets en moi cette seule préoccupation, rester soumis à ta volonté. Quand Jésus regarde notre Église ou nous regarde personnellement, qu'est-ce qui l'étonne ? Notre incrédulité, notre non-soumission ou notre foi. Je rappelle, à Capernaum, Jésus est étonné par la foi de cet officier romain. Un des grands problèmes de notre société et qui augmente avec le temps qui passe est le refus de la soumission. Et le refus d'une obéissance complète à Dieu. Les enfants refusent d'être soumis aux parents, les jeunes refusent d'être soumis aux professeurs, la femme refuse d'être soumise à son mari, et le mari refuse d'être soumis à son épouse, l'ouvrier refuse d'être soumis à son patron, le patron refuse d'être soumis à ses ouvriers, le chrétien refuse d'être soumis aux anciens et aux pasteurs, le pasteur refuse d'être soumis à l'Église et aux anciens, le citoyen refuse d'être soumis au gouvernement et le gouvernement refuse d'être soumis aux lois. Dans quel monde nous vivons ? Et pourtant, nous chrétiens, nous souhaitons tous avoir une sainte autorité, une saine puissance et un saint pouvoir. Et on ne peut trouver ces choses que dans la soumission à Jésus-Christ. Et dans la soumission aussi aux autorités. Et en cela, Jésus, il a été un très bel exemple pour nous. Il a été soumis en toutes choses à la volonté de son Père. Il a dit, avant d'être crucifié sur la croix, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Pour chacun, y compris moi, la soumission, c'est une obéissance complète à Dieu. Et elle commence par un premier pas que nous avons peut-être déjà fait. C'est par la conversion, car c'est par là que tout commence. Mais après notre conversion, après quelques années passées, où en est réellement notre relation avec Dieu? Alors, pour terminer, pour vous, chers frères et sœurs et chers amis et amis, je vais vous laisser quatre questions ce matin. La première, sommes-nous, êtes-vous encore soumis à Jésus-Christ? Sommes-nous, êtes-vous venus à la croix pour soumettre toute votre vie au Seigneur? Sommes-nous, êtes-vous placés devant le sang de la croix? Sommes-nous, êtes-vous aujourd'hui, chers frères et sœurs, et chers amis, en paix avec Dieu? À vous d'y répondre avec sincérité au plus profond de votre cœur. Amen.